France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'argent de la drogue en France, près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les chiffres sont révélés aujourd'hui, on vous les détaille dans un instant. On verra aussi que les mineurs sont de plus en plus nombreux à être enrôlés dans les réseaux criminels en Europe. À suivre encore, après le cambriolage, après les fuites d'eau, la grève au Louvre, grève annoncée dans le plus grand musée français en raison des conditions de travail. On va vous l'expliquer. La Syrie, un an après la chute de Bachar el-Assad, pays divisé jusque dans les célébrations aujourd'hui. Nous serons sur place. Les inégalités entre les hommes et les femmes qui sont encore plus fortes en zone rurale. Notre invité nous dira pourquoi dans une vingtaine de minutes. Et puis la reprise du marché immobilier en France. Bonjour Claire Sergent.
Bonjour.
Ça repart dans l'ancien.
Oui, plus 11% depuis le début de l'année. C'est particulièrement marqué à Dijon ou Toulon. On vous expliquera pourquoi.
A tout de suite. À partir de 13h30, c'est le grand chef Yannick Alénaud qui est avec nous depuis la mort de son fils Antoine. Il se bat contre la violence routière et il alerte aujourd'hui sur les effets au volant du protoxyde d'azote. 01 45 24 7000 pour être avec nous pour vos questions et vos témoignages sur tous les sujets qui concernent au fond la sécurité routière dont nous continuerons à parler à 13h45 dans notre feuilleton puisque nous passons toute cette semaine avec un patrouilleur.
J'ai eu l'opportunité de rentrer aux autoroutes. C'est un métier qui m'a plu de suite. On se considère comme un super-héros. J'ai pas de pouvoir, mais je sauve des vies tous les jours.
Ces patrouilleurs qui prennent soin des automobilistes sur les autoroutes, nous serons dans le département du Gard. 13h50, c'est la France, un cinéma qui rouvre à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, et ça change tout, nous dira Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le romancier Gilles Le Gardinier demande Gérard Lenormand.
Elle a posé des mots sur un sentiment que je n'analysais pas. Et je pense que par là même, il fait partie des gens qui m'ont appris que même ce qui ne se disait pas pouvait s'écrire.
Et la chanson s'intitule « Les matins d'hiver ». Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
6,8 milliards d'euros, voilà ce que pèse en France le marché de la drogue. Élément de comparaison, le marché des jeux vidéo, par exemple, marché légal évidemment celui-là, pèse un peu moins de 6 milliards. Alors pour la drogue, ce chiffre d'affaires a été multiplié par 3 depuis 2010. L'étude que publie aujourd'hui l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a en fait le grand mérite de mesurer avec des chiffres objectifs une tendance qui est constatée partout en France. Bonjour Victor Delange.
Bonjour Jérôme.
Avant de rentrer dans le détail de l'étude, un mot de la méthode. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le chiffre d'affaires d'une activité qui par définition est illégale? Il n'y a pas de déclaration officielle.
Non, forcément. Aucune déclaration, mais des éléments objectifs et une méthode scientifique très robuste. Les deux chercheurs sont d'abord partis des dernières estimations de consommation de drogue, des chiffres qui datent de 2023. Cette consommation est ensuite rapportée au prix au détail des différentes drogues et à la quantité moyenne achetée par les utilisateurs. Vous obtenez ensuite un chiffre d'affaires pour chaque drogue.
Donc explosion du chiffre d'affaires et nouveauté Victor, le business de la cocaïne est désormais le plus lucratif.
Oui, c'est la première fois qu'un tel constat est fait en France. On parle bien ici du chiffre d'affaires, de la valeur monétaire, la cocaïne est donc devant le cannabis, même s'il y a encore davantage de consommateurs d'herbes en nombre dans notre pays. Nicolas Pris est président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Il nous donne les raisons de cette montée en puissance de la cocaïne.
La cocaïne est un produit qui s'est banalisé, qui s'est normalisé, que l'on trouve partout. Vous n'avez plus un seul groupe criminel aujourd'hui qui propose une offre reposant exclusivement sur le cannabis. Et ça, c'est une question centrale en termes d'offres. Donc ça touche tous les territoires. En termes d'offres également, un prix qui a baissé. On est aux alentours de 55 euros le gramme en moyenne, mais surtout avec une pureté qui a augmenté. Donc on a un rapport prix-pureté qui lui-même a baissé.
Dernière explication, le mode de prise de cette drogue davantage plébiscité notamment par les jeunes car la voie de la fumée et donc du cannabis est devenue ringarde. Reste une immense méconnaissance des dangers de la cocaïne avec deux conséquences directes. Une augmentation d'abord des passages aux urgences pour des pathologies cardiovasculaires aiguës et une méconnaissance de l'addiction que représente la cocaïne. C'est l'une des drogues les plus addictives, me confie un médecin ce matin au téléphone. Et de conclure, il nous faut d'urgence un plan de prévention spécifique pour cette drogue si on ne veut pas se retrouver avec une génération totalement dépendante dans quelques années.
Victor Delande pour ses explications. Et dans ces réseaux criminels, de drogue ou autres d'ailleurs, on trouve de plus en plus de jeunes, parfois mineurs. Ce phénomène a d'abord touché la Suède avant de se répandre dans toute l'Europe. Et Europol, l'organisme qui coordonne les polices européennes, s'est penché sur ce sujet. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Premier constat, au bout d'un semestre d'enquête, on ne parle plus d'un phénomène marginal.
Non, pour vous donner une idée, en 6 mois, 193 personnes ont été arrêtées en Europe, recruteurs et recrutés, dont deux en France. Les organisations criminelles contactent des mineurs sur les réseaux sociaux pour aller commettre des actes qui vont de l'intimidation à l'assassinat de jeunes tueurs à gages. Donc. Et pour en arriver là, elles appliquent toute une stratégie de mise en confiance que nous détaille le général Jean-Philippe Lecouf. Il est le directeur des opérations d'Europol.
On va leur faire livrer un burger, une pizza, leur demander leur adresse au passage. Et à un moment, quand les groupes criminels ont suffisamment d'informations sur le mineur, soit parce qu'ils sentent qu'il y a une appétence pour aller partir sur un truc un peu aventureux, etc. Ou alors en disant « si tu fais pas ça, on va dire à tes parents ce qui s'est passé, etc. » À ce moment-là, on rentre dans une phase de contrainte.
Certains de ces mineurs ont 12 ans. Alors pourquoi si jeunes ? Eh bien parce que ce sont des personnes qui écopent de peines moins lourdes que les adultes et ont parfois besoin de reconnaissance qui les pousse à accepter des paiements dérisoires au regard des faits.
Ça peut être de l'argent, mais ça peut être, on a eu le cas par exemple, de mineurs qui ont été payés sous la forme d'une PlayStation qu'on leur a envoyée.
On leur a envoyé puisque tout se fait à distance, souvent entre plusieurs pays, à dessein, difficile comme ça pour les enquêteurs de remonter jusqu'au commanditaire des violences.
Ariane Grissel, comment réagir quand on assiste à des violences dans un lieu public, des violences de la part d'un adulte sur son propre enfant. Samedi après-midi, c'est ce qui est arrivé à des passagers d'un TGV qui circulait entre Lille et Nîmes. Et ils ont décidé d'intervenir et même d'appeler la police en voyant une mère de famille passer à tabac son fils de 6 ans. Passer à tabac, il n'y a pas d'autre mot. Bonjour Raphaël Ben Abdelmoumen.
Bonjour.
Une scène proprement hallucinante.
Oui, une mère qui attrape son fils par les cheveux pour le remonter sur son siège avant de lui frapper la tête contre la tablette à 3 reprises et de l'étrangler. Tout ça car le garçon de 6 ans a renversé par accident une canette de soda sur une passagère. Devant un tel déchaînement de violence, des voyageurs réagissent. Un passager notamment appelle le 3117, le numéro d'alerte de la SNCF. Réaction rapide d'une équipe de la Sûreté ferroviaire. La mère est interpellée lors de l'arrêt du train en gare de Marne-la-Vallée-Chessy en région parisienne. La femme de 42 ans, sans antécédent judiciaire, était ce matin toujours en garde à vue selon le parquet de Meaux. Le garçon a lui été confié à l'aide sociale à l'enfance pour 72 heures. Les voyageurs ont eu le bon réflexe selon Arnaud Gallet, président de Move Enfants, mouvement de lutte contre les violences faites aux enfants.
Les passagers ont été à la hauteur de ce qui se passait parce que très souvent, le réflexe, plus de 9 fois sur 10, c'est de tourner la tête. Et là, je trouve que ça nous montre le chemin qui doit être suivi collectivement et qui n'est très souvent pas ce chemin-là. En fait, on peut toutes et tous agir dans la lutte contre les violences faites aux enfants parce qu'on est très souvent témoins et souvent, en fait, on ne sait pas quoi faire. Impulser une vraie culture de la protection des enfants, l'enjeu, il est là aujourd'hui en France et ça, c'est essentiel.
Arnaud Gallet qui rappelle qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents.
Merci Raphaël Ben Abdelmoumen. Visiter le Louvre, le musée du Louvre, est devenu un véritable parcours du combattant. Voilà ce qu'écrivent les syndicats du musée le plus fréquenté du monde aujourd'hui. Des syndicats qui appellent donc à la grève à partir de lundi prochain. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Grève reconductible contre, je cite, des conditions de travail dégradées et pour dénoncer des moyens insuffisants.
Oui, voté par 200 employés réunis en AG dans l'auditorium du Louvre qui ont voté à l'unanimité ce préavis qui porte donc sur le nombre de postes, sur les conditions de travail, mais aussi sur l'augmentation du tarif annoncé pour les visiteurs extra-européens, augmentation qui ne colle pas, selon les syndicats, avec la visite d'un musée délabré dont plusieurs salles ne peuvent pas ouvrir, faute de personnel ou parce que trop vétuste. Ce week-end encore, on apprenait que des centaines d'ouvrages de la bibliothèque des antiquités égyptiennes avaient été endommagés dans une inondation causée par une fuite d'eau. Pour Christian Galani de la CGT Louvre, il y a une forme de trop-plein de problèmes auxquels le ministère de la Culture n'apporte pas les bonnes solutions.
Ça devient insoutenable et on apprend de jour en jour, enfin la saga du Louvre se poursuit. Madame Dati fait une erreur historique en pensant qu'il faut arriver à 12 millions de visiteurs alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'effectifs pour assurer nos missions. Nous n'avons pas de moyens suffisants pour permettre de se doter d'équipements de sûreté assurant la préservation des collections. Et donc, les personnels sont à l'os. 200 emplois perdus en l'espace de 15 ans. C'est la raison pour laquelle nous demandons en urgence la création de postes pour compenser les destructions d'emplois qui se sont échelonnées tout au long de ces dernières années.
Et maintenant que le préavis est déposé, les syndicats attendent le début des négociations avec le ministère et la direction du musée. Négociations dont l'issue déterminera certainement si le Louvre ouvrira ses portes ou non lundi prochain.
Julien Baldacchino, 4 morts hier en fin d'après-midi dans un accident d'avion. Commune de Bethmale, département de l'Ariège, c'est un petit avion de tourisme qui s'est écrasé. À son bord, un moniteur de l'École nationale de l'aviation civile, âgé de 25 ans, pilote de l'aéroclub de Saint-Giron, ainsi que 3 jeunes élèves âgés de 18 à 25 ans qui figurent également parmi les victimes. C'est toujours le mystère dans les Pyrénées-Orientales. Pourquoi quelques 400 élèves du collège du Soleil tout près de Perpignan ont été malades vendredi et ce week-end touchés par une gastro-entérite, tout comme des dizaines de parents. Le collège a rouvert ce matin. Des échantillons d'eau ont été prélevés, ont été analysés également, mais selon l'Agence régionale de santé, aucune non-conformité de ces échantillons d'eau n'a été constatée. L'enquête se poursuit donc.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Comment reconstruire un pays ravagé par 11 années de guerre civile et martyrisé par 50 années de dictature? C'est le défi qui s'offre à la Syrie, un an après l'effondrement en quelques heures du pouvoir de Bachar al-Assad, depuis réfugié à Moscou, et l'entrée en scène des djihadistes d'HTC menés par un chef de guerre, Abou Mohamed al-Joulani, qui s'est depuis autoproclamé président sous le nom d'Ahmed al-Shara. Al-Shara a gardé sa barbe fournie, mais il a troqué son treillis pour un costume cravate, et un an plus tard, la Syrie a attiré 28 milliards de dollars d'investissement, renouer avec les États-Unis, mais les tensions entre communautés restent fortes. Certains, comme les Alaouites, ont d'ailleurs subi des massacres ces derniers mois. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
Vous êtes notre envoyé spécial aujourd'hui en Syrie. Vous êtes en direct du centre de Damas. Damas où se déroulait ce matin une parade militaire pour fêter cet anniversaire, la chute de Bachar al-Assad il y a un an. Vous avez pu assister à cette parade, Marie-Pierre?
Oui, et l'excitation n'a fait que croître. Toute la matinée, par dizaines de milliers, les Syriens s'étaient massés le long de l'autoroute qui mène de l'aéroport militaire de Madzé jusqu'à la place des Omeyyades pour assister à la parade. Ahmed al-Shara est venu saluer ses hommes. Et en ce jour anniversaire, le président syrien a tombé le costume pour remettre son ancien treillis de chef de guerre. Et les voilà qui arrivent. Un jeune homme, juché sur les épaules de son camarade, filme le défilé. Il y a les véhicules de l'armée, lance-t-il, et les soldats. C'est une belle parade, l'infanterie, les drones. Il y a aussi tanks et lance-roquettes, et cette armée, tous le répètent, c'est la leur.
Ce sont des héros, de vrais héros. Ce sont eux qui nous ont libérés de l'injustice qui nous a contrôlés pendant 50 ans. Vous avez vu à quel point les prisons étaient pleines. Nous avons perdu 1 million de martyrs. Cette armée est un modèle.
Il est venu en famille avec ses enfants et son épouse radieuse.
Les parades militaires avant, elles représentaient juste le régime. C'était du théâtre. Mais cette parade, elle nous représente, nous, le peuple syrien.
Les parades de l'ancien régime, c'était depuis les airs, et ils envoyaient des bombes sur nous. Mais cela envoie des roses.
On danse au son de la toute nouvelle chanson qui célèbre l'armée syrienne. Ces soldats, disent les paroles, qui protègent le pays, qui ont été victorieux et qui maintenant veulent la paix.
Ça, c'est vrai pour Damas, où vous vous trouvez, Marie-Pierre Véraud, mais la situation est tout autre dans le reste du pays. Tous les Syriens, loin de là, ne vont pas assister à ces parades.
Alors, en effet, le gouvernement a donc organisé des défilés, bien sûr, ici dans la capitale, mais aussi dans chacune des grandes villes du pays, à Alep, à Hama, à Homs. Mais il n'y en aura pas dans l'ouest, sur la côte, où sont les Alaouites. Un chef influent a appelé au boycott des cérémonies et à plusieurs jours de grève générale. Pas de liesse populaire non plus en pays kurde. Les autorités y ont carrément interdit toute célébration. Quant aux Druzes, l'un de leurs responsables leur a demandé de rester chez eux aujourd'hui. Il faudra donc plus que les appels à l'unité réitérés ce matin encore par le président syrien pour construire ce nouveau pays que tous appellent de leurs vœux.
Merci Marie-Pierre Véraud, en direct, envoyée spéciale de France Inter à Damas avec les moyens techniques de Martin Troadec. Alors Ahmad al-Sharaa, le président syrien, est protégé, conseillé également par les États-Unis. Il a même été reçu à la Maison-Blanche, mais il n'a pas rompu pour autant avec la Russie. Pour l'instant, les Russes ont même réussi à préserver leurs deux bases militaires dans le pays. Sylvain Tronchet est notre correspondant à Moscou.
Avec le nouveau pouvoir syrien, le Kremlin marche sur un fil. D'un côté, il protège Bachar el-Assad, son ancien allié, réfugié à Moscou. Lors de sa venue en Russie, le mois dernier, le leader syrien Ahmad al-Sharaa avait réclamé son extradition, refusée. Mais pour autant, le dialogue n'est pas fermé, parce que la Russie veut absolument garder ses deux bases militaires en Syrie, la base maritime de Tartous, essentielle pour continuer à maintenir une présence en Méditerranée, la base aérienne de Memim, indispensable pour que les gros porteurs russes partant vers l'Afrique puissent se ravitailler. Officiellement, les accords qui liaient Damas à Moscou sont suspendus, mais les deux bases restent opérationnelles. Des négociations sont en cours pour que Moscou puisse continuer à les utiliser pleinement. En échange, la Russie a proposé d'aider le régime syrien, pétrole, aide alimentaire, reconstruction du pays. Moscou semble prêt à faire des efforts pour garder un point d'appui au Proche-Orient. Ahmad al-Sharaa, lui, semble prêt à dialoguer avec son ancien ennemi parce que la Russie peut constituer un contrepoids face à la Turquie et à Israël. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et pour en savoir plus sur la situation en Syrie, le 18-20 ce soir sur France Inter, il sera entièrement consacré, réalisé à Damas par Fabienne Sintès et toute son équipe. Nous parlions de Donald Trump et de sa politique vis-à-vis de la Syrie. Il y a un instant, le président américain qui a, au tout début de son deuxième mandat, il y a quelques mois, très rapidement augmenté les droits de douane vis-à-vis de la Chine pour rééquilibrer la balance commerciale. Et on se demandait si cela aurait des conséquences sur le commerce extérieur chinois. Et bien manifestement pas du tout. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Pékin. Pour la première fois en 2025, l'excédent commercial chinois va dépasser les 1000 milliards de dollars. Concrètement Sébastien, ça veut dire que les Chinois ont été capables de changer leur production extrêmement rapidement ?
Oui, c'est ça. En tant que correspondant en Chine pour couvrir la guerre commerciale avec les États-Unis, j'ai visité ces derniers mois pas mal de petites usines chinoises qui étaient directement concernées par ces droits de douane de Donald Trump. Et ce que j'ai vu, eh bien, ce sont des patrons évidemment inquiets, mais aussi très réactifs qui, en quelques semaines, parviennent à trouver de nouveaux clients pour remplacer le marché américain. Alors, on vend davantage en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Europe aussi, et plus globalement dans tous les pays amis de la Chine qui participe au grand projet des nouvelles routes de la soie. Et pour faire face au protectionnisme américain, des usines sont aussi capables de se reconvertir très vite. J'ai visité par exemple une fabrique de porte-clés qui avait les États-Unis comme premier client et qui s'est mise à produire des décorations de Noël pour un autre pays. Tout cela donc fait que, malgré les droits de douane de Trump, malgré la forte baisse des exportations vers les États-Unis depuis un an, la Chine a continué de vendre à l'extérieur avec cet excédent commercial record, vous le disiez, plus de 1000 milliards de dollars.
Donc ce qu'on comprend en vous écoutant Sébastien Berriot, c'est que les menaces de droits de douane agitées notamment ces dernières heures par Emmanuel Macron, ça n'effraie pas du tout les Chinois.
Oui, Emmanuel Macron qui menace de taxer les produits chinois, effectivement, ça n'inquiète pas vraiment ici à Pékin, où on sait parfaitement que l'Union européenne est divisée sur le sujet et qu'au sein des 27, certains ne sont pas du tout partisans de la manière forte vis-à-vis de Pékin. Et de toute façon, la Chine n'a pas cédé aux menaces de Donald Trump. Peu de chances qu'elle le fasse avec les Européens.
Comment les Chinois sont passés de fabrication de porte-clés à la décoration de Noël, entre autres. Merci Sébastien Berriot pour cette correspondance en direct de Chine. Les inégalités entre les femmes et les hommes sont plus fortes, plus criantes en milieu rural. C'est ce que nous apprend cette étude publiée aujourd'hui par l'Institut TERAM et l'association Rura dont vous êtes la représentante. Bonjour Salomé Berlioux.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, co-autrice de cette étude qui concerne 11 millions de Françaises qui vivent en zone rurale. Est-ce que vous avez été surpris de découvrir à quel point les Françaises qui vivent dans ces régions sont défavorisées par rapport aux autres ?
Non, pas surprise du tout avec Rura. Ça fait 9 ans maintenant qu'on est au contact des jeunes ruraux et notamment des jeunes rurales, mais aussi de leurs mères, de leurs sœurs, de leurs enseignantes, de leurs élus UES. Donc en fait, tout l'écosystème féminin qui a, on le sait, beaucoup d'impact sur les parcours d'orientation des jeunes. C'est pour ça que on cherche très régulièrement à échanger avec elles. Et effectivement, ce qu'on voit et ce qu'on écrit avec mon co-auteur Félix Assouli, c'est que les enjeux, les besoins, les défis, le vécu des femmes rurales, soit vous le disiez, une Française sur 3 sont à l'échelle du pays la plupart du temps comme évincées des narrations, comme s'ils n'existaient pas vraiment, comme s'ils n'étaient légitimes que lorsque ces récits étaient partagés par leurs frères, leurs maris et leurs enfants. En fait, les enjeux spécifiques des femmes rurales, on n'en parle pas.
Et elles avaient été très actives, Salomé Berlux, au moment du mouvement des Gilets jaunes notamment.
Tout à fait. Et ça, d'ailleurs, ça n'est pas un hasard. Si c'est à partir de ce moment-là, sans doute qu'à l'échelle du pays, on a commencé un petit peu plus à s'intéresser aux territoires ruraux et aux habitants de ces territoires, indépendamment de la question des agriculteurs. Mais en fait, l'objectif de ce travail aujourd'hui, c'était de se pencher de manière la plus fine possible sur le réel, le quotidien, les défis des femmes rurales, pour mettre en évidence que les victoires symboliques du féminisme en France sont réelles, mais n'ont pas fait changer le quotidien des femmes en ruralité. Et qu'il ne faut pas confondre une évolution des mentalités et des discours en ville avec des changements concrets à la campagne.
Des inégalités, notamment en termes de salaire, plus fortes par rapport aux hommes qu'en ville. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce que l'étude montre assez bien, c'est que les hommes ruraux, ils vont gagner en fait en autonomie tout au long de leur vie, et notamment en autonomie financière, avec des étapes clés qui sont la mise en couple et l'arrivée des enfants, là où les femmes rurales vont, elles, perdre en autonomie financière dans ces moments clés. Alors effectivement, les femmes ont des revenus plus bas.
Mais pourquoi
bas
c'est
que
plus
les hommes...
vrai à la campagne qu'en ville ?
En fait, ce qu'on voit, c'est que le territoire, il ne crée pas les inégalités de genre, mais qu'il les amplifie. Et qu'il les amplifie notamment du fait de l'éloignement kilométrique des services publics et des services privés. C'est-à-dire que c'est là où c'est vraiment une mécanique, c'est vraiment des inégalités systémiques et un système qui se met en place autour des femmes et autour des femmes rurales en leur défaveur. C'est-à-dire que pour ne prendre qu'un exemple sur le partage des tâches domestiques et l'inégalité de temps libre et la charge mentale qui pèse sur les femmes, ça c'est vrai partout en France, on le sait, et l'écrasante majorité des tâches domestiques pèse sur les femmes au sein des couples partout en France, mais en ruralité, on a une charge logistique et temporelle qui va s'ajouter à la charge mentale, puisque les femmes gérant tout ça vont devoir prendre leur voiture et donc grignoter sur leur temps personnel pour emmener leur fils au sport, pour faire des démarches administratives, pour aller travailler, pour emmener leur bébé chez le pédiatre ou aller au supermarché. Et ça, ça a un impact évidemment sur l'emploi. Ça a aussi un impact sur le temps libre. Notre enquête montre par exemple que les femmes rurales sont 47% à disposer de moins de 5 heures par semaine pour elles-mêmes, soit moins de 42 minutes par jour, versus 25% des hommes ruraux, c'est 22 points d'écart. Et en comparaison, l'écart en ville entre les femmes et les hommes n'est que de 10 points. Et tout ça, ça va évidemment avoir des conséquences, notamment sur l'insécurité économique qui pèse sur les femmes, sur leur capacité ensuite à épargner, sur leur pouvoir d'achat, sur leur emploi quand elles ont des enfants. Ça a aussi un lien évidemment avec la question des modes de garde. On a une pénurie du mode de garde à la campagne, qui est aussi le cas en ville, mais qui est 3 fois plus élevé à la campagne.
Merci Salomé Berlioux d'avoir commenté avec nous cette étude que vous publiez donc aujourd'hui sur les inégalités entre les femmes et les hommes en milieu rural, étude de l'Institut Terram et de l'association Rura que vous représentez, étude publiée donc aujourd'hui. La reprise dans le marché de l'immobilier, elle concerne le volume de ventes et de logements anciens qui augmente de 11% en un an. C'est le bilan que font aujourd'hui les notaires de France. Claire Sergent, on vous retrouve. On peut parler de reprise de ce marché immobilier aujourd'hui ?
Oui, ce chiffre de 11% que vous nous donniez, hein, c'est vraiment les hausses des ventes depuis le début de l'année, hein, nous dit le Conseil supérieur des notaires, avec des villes qui sortent leur épingle du jeu, comme Dijon, où le marché est dopé par des prix relativement bas. La baisse des prix et la baisse du coût des emprunts redonnent du pouvoir d'achat aux acheteurs. Ils gagnent 4%. Et ce rebond, il est aussi marqué à Toulouse, qui tire tout le département de la Haute-Garonne, tout comme la Gironde, le Rhône. Parce qu'à Bordeaux, comme à Lyon, les prix ont beaucoup baissé, à la différence de Paris, où la reprise est beaucoup plus modérée.
Il faut tout de même rester prudent vis-à-vis de ces chiffres.
Oui, malgré tout, beaucoup de ménages hésitent encore. Ils ne savent pas ce que leur réserve le prochain budget. Ils ne savent pas si les taux d'intérêt ne vont pas grimper et renchérir leur emprunt. Résultat, beaucoup préfèrent épargner et attendre. Signe de cette incertitude, les Français n'ont jamais gardé aussi longtemps leur appartement ou leur maison, 12 ans et demi en moyenne. Et pour finir sur une note optimiste quand même, selon les experts, il vaut mieux que le marché immobilier reprenne doucement pour éviter que les prix ne flambent à nouveau.
Merci Claire Sergent pour ces précisions. Quels pesticides autorisés en Europe et à quelle échéance faut-il délivrer ces autorisations? Faut-il les renouveler régulièrement ou bien les autoriser définitivement? La Commission européenne se penche sur ces questions cette semaine, sachant qu'il y a une forte pression des États membres pour simplifier les normes et cela inquiète aujourd'hui les scientifiques. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Avant de venir à cette inquiétude, il faut d'abord expliquer que ces mesures pourraient simplifier l'utilisation des pesticides alors qu'aujourd'hui ils sont soumis à des procédures de réexamen périodiques.
Alors pour vous remettre dans le contexte, un rapport a circulé il y a deux semaines signé du commissaire européen à la santé Oliver Varelli, proche du président hongrois Viktor Orban. Il propose de délivrer des autorisations illimitées dans le temps pour les pesticides, sauf pour les plus dangereux qui feraient l'objet d'un réexamen tous les 7 ans. Ce serait un big bang parce que depuis 2009, les substances actives sont autorisées pour 10 ou 15 ans après réévaluation. L'argument invoqué, eh bien, l'agence sanitaire européenne, l'EFSA, chargée de ces examens, croule sous les dossiers et n'arrive plus à combler le retard.
Ce qui inquiète donc 2300 scientifiques et professionnels de santé qui alertent dans une lettre ouverte ce matin.
Oui, depuis fin novembre, les scientifiques ainsi que les ONG alertent sur ce qu'ils considèrent comme une grave régression pour la protection de la santé et de l'environnement. Salomé Roinel du réseau européen de lutte contre les pesticides, Le Pan.
Le principe de renouvellement qui existe aujourd'hui permet de réviser la toxicité d'une substance. Si on élimine ce principe, ça pose le risque de laisser sur le marché des substances qui sont potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement. Si on n'avait pas eu cette réglementation en vigueur aujourd'hui, on a 31 substances aujourd'hui interdites qui seraient encore sur le marché et qu'on a pourtant considérées dangereuses pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Alors cette proposition controversée fera-t-elle partie des mesures pour simplifier la réglementation sur les pesticides présentées ce mois à Bruxelles? La Commission refuse de le confirmer. Elle dit qu'elle ne commente pas les fuites dans la presse, mais affirme qu'il n'est pas question de baisser le niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement.
Sandy Dauphin, sur le terrain, le début de saison du Stade toulousain en rugby est un quasi sans faute. Leader du top 14, vainqueur hier pour leur entrée en lice en Coupe d'Europe. Mais en coulisses, il y a le feu en cause, les conséquences en cascade du transfert de l'arrière international Melvin Jaminet. C'était en 2022, transfert de Perpignan à Toulouse et le Stade toulousain est soupçonné d'avoir enfreint les règles à l'époque, des règles qui limitaient les dépenses du club. Alors le club a déjà payé 1 300 000 euros dans cette affaire, mais il va être entendu cet après-midi devant le conseil de discipline du rugby français. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Jérôme.
Quel est le problème avec ce transfert?
Alors il faut revenir, effectivement, vous le disiez, en 2022, grand espoir du rugby français, Melvin Jaminet annonce son départ vers le Stade toulousain, mais il lui reste 2 ans de contrat avec Perpignan. Il doit donc débourser 450 000 euros pour racheter ces 2 années. Melvin Jaminet souscrit un emprunt pour éviter que le Stade toulousain dépasse le plafond salarial imposé par la Ligue.
Plutôt que ce soit le club qui paye, c'est lui qui paye directement.
Exactement. Une manœuvre de contournement dénoncée par les instances dirigeantes. Pour éviter une sanction, le Stade toulousain a versé 1 300 000 euros à la Ligue et trouvé un accord financier avec Melvin Jaminet. Mais l'autorité de régulation du rugby nouvellement créée a décidé de transmettre ce dossier au conseil de discipline qui se réunit cet après-midi.
Que risque Vincent, le Stade toulousain, dans cette affaire?
L'éventail des sanctions est très large. Elles peuvent aller jusqu'à la rétrogradation du Stade toulousain en deuxième division. Ça serait un cataclysme dans le rugby français. Interdiction de disputer les phases finales du championnat également. Rappelons que le Stade a remporté les 3 derniers titres de champion de France. Le Stade toulousain pourrait également être condamné à verser une lourde amende et se voir retirer des points dans le top 14. Les dirigeants toulousains sont donc entendus cet après-midi par la commission de discipline de la Ligue. pour une décision attendue jeudi ou vendredi.
Merci Vincent Pellegrini, sachant qu'il y a également un volet judiciaire à cette affaire et que le parquet de Toulouse a ouvert une enquête préliminaire pour abus de confiance dans le cadre de ce transfert. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo extrêmement douce de Stéphanie Fromentin. Puis, à partir de 13h30, le grand chef Yannick Alénaud avec nous. Il a créé l'association Antoine Alénaud après la mort de son fils tué par un chauffard en 2022. Nous parlons sécurité routière avec lui. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, nous restons sur la route. Notre feuilleton nous emmène à la découverte du métier de patrouilleur d'autoroute. Ce sera dans le département du Gard. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cécilia Arbona, Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous parlez d'un passionné de cinéma.
Régis Faure, 48 ans, originaire de Chauffailles en Saône-et-Loire. C'est en quelque sorte un ouvreur de cinéma de proximité. Son dernier né à 5 jours, il est à Monceau-les-Mines.
Et avec vous Frédéric, un romancier.
Gilles Le Gardinier, dont vient de sortir le 22e roman « La Compagnie des Heureux Hasards ». Et avec lui, nous parlerons d'une chanson de Gérard Lenormand, « Les matins d'hiver ». Gilles Le Gardinier aime beaucoup Gérard Lenormand et il aime beaucoup l'hiver.
Ça tombe bien. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Une cuisine de tradition, un cadre intimiste, un patron qui vaut le détour, un bon rapport qualité-prix, voilà les commandements du petit Pudelot des bistrots, dont nous découvrirons la nouvelle édition ce lundi en compagnie de Gilles Pudlowski.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter.
Dans mon vrai nom est Elisabeth, Adalion dévoile le destin bouleversant de son arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène dans les années 50. À partir d'archives et de souvenirs familiaux, elle part en quête d'un passé tenu sous silence. Salué par la critique, ce premier livre éblouissant est un récit puissant sur la psychiatrie, la transmission et les violences faites aux femmes. Déjà plus de 200 000 lecteurs et lectrices se sont reconnus dans son histoire. Et vous ? Mon vrai nom est Elisabeth, aux éditions du Sous-Sol.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Alors, cette douceur, douceur généralisée.
Les températures restent effectivement très douces pour la saison. Elles sont plus proches des valeurs d'une mi-avril que de celles d'un mois de décembre. C'est une douceur qui arrive d'Afrique, associée à une dépression atlantique et un vent de sud qui la maintiennent, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les montagnes du Jura, des Vosges et du Massif central, où la neige va fondre rapidement. Il fera 13 à 17 degrés sur la moitié nord, 15 à 19 au sud, voire 21 en degrés en Languedoc-Roussillon. 13 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 à Manosque, Strasbourg, La Rochelle, Paris, 19 à Pau et Carcassonne.
Sinon, c'est du soleil au sud.
Au sud de la Loire. Hormis quelques grisailles persistantes, très localement, le ciel est effectivement plutôt ensoleillé, avec un vent qui souffle dans les terres à 60 km/h. Cet après-midi, le temps reste très nuageux à couvert, de la Bretagne à la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand Est. Les passages pluvieux restent encore fréquents, notamment sur l'ouest de la péninsule bretonne et près de la Manche, tandis que le vent se maintient, 50-60 km/h en rafale, voire 70 près des côtes. En revanche, des Pays de la Loire jusqu'au sud du Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par la région parisienne et le centre-Val de Loire, la couverture nuageuse devient moins compacte et le temps presque lumineux.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Yannick Alénaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci
dans
vous.
Ce 13-14. Vous êtes l'un de nos grands chefs, l'un des rares à avoir décroché 3 étoiles au guide Michelin pour 2 de vos restaurants. En mai 2022, vous avez perdu votre fils Antoine, qui circulait à scooter dans Paris quand il a été mortellement percuté par un conducteur récidiviste en état d'ivresse sans permis et qui circulait à bord d'un véhicule volé. Il a depuis été condamné à 7 ans de prison. Et vous, vous avez fondé une association, l'association Antoine Aleno, précisément pour agir contre la violence routière. Je vais donner deux chiffres. L'an dernier, 3190 personnes sont mortes sur nos routes. Parmi elles, 1170 n'étaient pas responsables de l'accident qui leur a coûté la vie. 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent nous rejoindre et témoigner. Vous passez aussi via l'onglet Réagir de l'application Radio France et je pourrai donc transmettre votre question. Yannick Aleno, vous avez milité pour la création d'un délit d'homicide routier. La loi a été votée en juillet dernier. Elle est entrée en vigueur. Est-ce qu'elle change déjà des choses concrètement, Yannick Aleno ?
Elle a changé évidemment les choses, puisque aujourd'hui, on lit très fréquemment, notamment encore hier, un jeune homme de 22 ans s'est fait écraser par un conducteur sous emprise d'alcool. Il avait 1,05 g. Un jeune homme de 22 ans qui arrivait du Sri Lanka, qui s'intégrait dans la société française. Et délit de fuite. Donc, cet auteur des faits est aujourd'hui inculpé d'homicide routier aggravé, vu qu'il y a un délit de fuite, etc. Donc oui, ça change les choses, ne serait-ce que pour la victime ou les co-victimes, qui ne doivent plus entendre le fait que leur enfant ou leur proche a été tué de façon, involontaire.
Homicide involontaire.
C'est ce qui était
la qualification jusqu'ici.
Alors, les délais d'emprisonnement ont fortement augmenté, ils ont doublé presque, puisque avant on parlait de 20 mois et aujourd'hui on atteint quasiment les 5 ans d'enfermement pour quelqu'un qui a bu et ou consommé de la drogue, qui a fait le choix de prendre son véhicule et à la fin de faire les 1000 victimes dont vous venez de parler.
Mais là, vous venez de nous donner cet exemple, Yannick Aleno. Ça veut dire que vous regardez, vous lisez tout ce qui arrive, vous vous renseignez sur tous les accidents qui se produisent pour comprendre ce qui s'est passé. Enfin, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de central dans votre vie, de savoir, de comprendre.
Écoutez, l'association Antoine Aleno a été créée le soir avec notre famille, le soir de l'enterrement d'Antoine, puisque j'ai vu et nous avons vu le manque en fait d'accompagnement des co-victimes. À l'origine, ça a été fait pour ça, et ensuite nous avons agi sur plusieurs choses, notamment évidemment, faut faire les comptes, faut regarder ce qui se passe pour agir en fait. Et on manque cruellement de data. L'accessibilité aux data est essentielle pour notre action.
Les chiffres de la sécurité routière sont pas suffisants,
non,
par exemple.
Ils sont pas assez détaillés. Ouais. On a besoin de savoir qui a consommé du peroxyde d'azote, qui a pris des drogues, qui, comment, pourquoi. Pour agir, il faut des écritures vraiment précises et on s'efforce de les retrouver.
On parle de cette loi, notamment, qui a suivi votre action, qui a créé l'homicide routier. Vous dites aujourd'hui qu'elle est en partie inapplicable, cette loi. Pour quelle raison ?
Oui, parce qu'il y a un décret qu'on attend tous, qui est le décret qui publie, en fait, la liste des produits psychoactifs. C'est-à-dire que là-dedans, notamment, je comprends que ça soit très difficile de la publier, cette liste, parce que là-dedans, il y a les antidépresseurs, etc. etc. Mais en tout cas, pour l'homicide routier, il faudrait la publication d'un décret qui stipule que le protoxyde d'azote est une drogue et qu'elle doit être interdite à la vente courante.
Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas la liste des substances qui sont considérées comme faisant partie de celles qu'on ne doit pas consommer au volant, c'est ça ?
Si, la liste, on l'a, parce que, évidemment, les recommandations, les antidépresseurs en éteint, par exemple. Donc
ouais.
C'est vrai que c'est difficile d'accuser quelqu'un qui est sous dépression d'un homicide routier. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, le produit qui nous intéresse le plus au point est ce protoxyde d'azote. Je pense que le gouvernement doit publier ce décret pour enfin qu'on puisse agir sur la vente de ce produit qui fait des dégâts monstrueux. Vinci disait, j'ai retrouvé plus d'une tonne et demie de bonbonnes abandonnées comme ça par les jeunes qui prennent le protoxyde d'azote avant de prendre le volant. Ils n'ont plus conscience de rien. Il y a eu les trois morts qu'on vient de voir, le petit Mathis qui s'est fait percuter.
Les trois morts noyés la semaine dernière à Alès,
voilà.
Le petit Mathis lui percuté
etc., etc.,
à Lille
etc.
par un
chauffeur. On pourrait raconter cette liste toute la journée, parce que c'est tous les jours, il faut comprendre que trois personnes trois jeunes, puisque c'est la première cause de mortalité en France des jeunes, c'est la route. 700, plus de 700 l'année dernière. Donc il est temps qu'on se mette tous en place, et c'est de notre responsabilité commune, le gouvernement comme les entreprises, de monter au créneau pour essayer d'en sauver un maximum.
La préfète du département de la Savoie, on l'a appris ce matin, a décidé d'interdire la détention, le transport, la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives sur l'ensemble du département. Face, dit-elle, à la recrudescence de l'usage détourné, les accidents de la route imputables au protoxyde d'azote sont de plus en plus nombreux, dit-elle. Il faudrait que d'autres départements suivent.
Non, il faudrait que l'État suive, en fait. C'est une décision d'État, hein. C'est pas les départements, mais l'État. Vous savez, on a fait beaucoup de travail important avec Gérald Darmanin. D'ailleurs, je l'en remercie aujourd'hui sur l'application de la loi de l'homicide routier. Il faut aller plus loin. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du tir sportif. Et quand vous aviez une arme à la maison, le protocole était le suivant. Vous mettez l'arme dans un coffre, le percuteur ailleurs et les cartouches ailleurs. Ça veut dire que une arme récréative, puisque c'est le cas, ouais. C'est du tir sportif... on peut appliquer ça sur le protoxyde d'azote. Donc, nous, on consomme du protoxyde d'azote, les restaurateurs. Donc, je pense qu'il faut mettre quelque chose en place. Le restaurateur pourrait acheter le protoxyde d'azote, tenir un cahier de référence, comme on peut le faire dans le tir sportif, et dire que les 10 cartouches qu'il a achetées pour faire sa journée doivent retourner au producteur. C'est quelque chose qui doit absolument, aujourd'hui, faire partie d'une réflexion nationale pour essayer de contraindre l'achat de ces bonbonnes, qui fait un dégât monstrueux, écologique, puisque déjà c'est un gaz extrêmement dangereux pour la couche d'ozone, humain, puisque les gamins consomment ce truc pour s'amuser, et puis finalement font n'importe quoi avec, et puis pour la santé publique, je veux dire, il y a des gamins qui finissent handicapés.
Je précise que la loi interdit déjà la vente aux mineurs.
C'est comme les cigarettes, je pense qu'à un moment donné, il faut aller plus loin.
Elle peut être détournée, je rappelle juste que
oui, non, mais bien sûr, il faut aller vraiment plus loin. Ouais. La loi doit évidemment prendre conscience que ce protoxyde d'azote est un produit extrêmement dangereux, et il faut qu'il soit considéré comme une drogue dure, en fait.
Et il faut que les jeunes en aient conscience aussi, parce que parfois la loi, elle n'inverse pas les comportements. Il faut que les jeunes se rendent compte de la dangerosité de ce produit.
L'accessibilité doit être contrainte, et ensuite, la prévention est importante.
Laurent est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour.
D'où nous appelez-vous Laurent ?
Je vous appelle d'un petit village de la Somme, isolé sur le plateau Picard. Et je voulais dire aussi qu'il y avait des problèmes de comportement, parce que moi qui suis né à Paris et qui ai vécu toute ma vie à Paris, j'ai décidé de partir à la campagne pour ma retraite. Et je vois dans mon village des gens qui ont des comportements. Alors là, c'est apparemment, ils sont pas sous drogue ou sous alcool, ouais. Mais qui traversent le village. Personne n'est à 50. Tout le monde est entre... je sais pas, 70, 80, 90. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que à la campagne, les conducteurs de véhicules motorisés n'ont plus l'habitude que de voir des véhicules motorisés. Il n'y a plus de troupeaux, il n'y a plus de piétons, il n'y a plus de cyclistes. Et donc, du coup, l'engin motorisé, il est roi. Et il y a des comportements qui sont absolument incroyables. De vitesse, de prise de risque. Moi-même, je suis aussi cavalier. Les voitures, quand elles me doublent, il y en a 90% qui ne ralentissent pas. Au contraire, il y en a même qui accélèrent. Et cet été, j'ai une de mes juments qui a été renversée par une voiture qui ne nous avait pas vus. Donc je pense que c'est aussi, il y a vraiment un problème de comportement dans notre pays.
Merci Laurent pour ce témoignage. Yannick Aleno, la vitesse, elle est toujours centrale dans les accidents.
Oui, mais je pense que Jacques Chirac avait fait un travail remarquable sur la prévention routière et sur... elle a fait décroître d'une façon considérable le nombre de morts sur les routes françaises. On était à 17 000 à l'époque, on a un plafond aujourd'hui qui tourne aux alentours de 4 000, donc évidemment la vitesse est quelque chose de fondamental. Vous savez, je vous racontais une anecdote, j'ai été avec l'association voir le maire de Nice à l'époque, on parlait de la vitesse en ville, hein, parce qu'il aussi était confronté à ça. La promenade des Anglais, les gens passent à plus de 100 le soir, la nuit, hein, 800, 130, etc. Antoine a été percuté à 130 km/h. En fait, un maire n'a pas forcément la possibilité d'installer un radar Il a l'occasion de le faire, mais en tout cas, il faut qu'il soit relié au fichier national. Et ça, ça dépend de la préfecture. Vous voyez ? Donc, suite à cette visite, il y avait évidemment, grâce aux journalistes présents, une action importante, ouais. Donc les prises de conscience importantes. Et du coup, il a pu installer 7 radars reliés au fichier central. Donc, il faut absolument que ça change. Si des communes sont traversées par des automobilistes qui roulent trop vite, je pense que l'installation d'un radar relié au fichier central serait une action importante.
Quand vous entendez les débats là, depuis quelques jours suite à la proposition de Louis Sarkozy de supprimer par exemple les feux rouges ou les stops, qu'est-ce que ça vous inspire, Yannick Alénaud, de voir le débat public se concentrer autour de ce type de proposition ?
Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur les familles qui ont subi un accident, de voir comment on prenne conscience que... Vous savez, on a collé sur le pont en face de la Tour Eiffel 1350 portraits de familles endeuillées. Ça correspond à 4 jours de dégâts français. 1350 portraits de familles qui ont perdu un gosse et qui ont besoin d'assistance. Donc moi, je pense que le vrai débat serait plutôt dans la prise de conscience généralisée et dans l'assistance, en fait, de ces gamins qui perdent leurs frères, leurs sœurs.
Aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'assistance ?
Non, parce que c'est considéré comme un accident, donc tout le monde vous dit que c'est la faute à pas de chance. Moi, vous savez, pour trouver où était mon gamin à la morgue, j'ai dû faire des pieds et des mains pour savoir où il avait été transporté. Donc, ce qu'on fait avec l'association, la prise de conscience et l'aide que les gens ont besoin, c'est tout de suite, maintenant, dès que ça arrive. Donc avant de parler sur ces débats qui sont stériles de toute façon, je veux bien tout réfléchir, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui agir sur la répression est un truc essentiel. La loi est pourvue de plein de sujets. La saisie du véhicule, c'est déjà dans les textes de loi. Si le gars déconne avec sa voiture, il faut lui prendre sa bagnole, point. Et puis il faut la mettre au domaine. Le premier qui fait ça dans un village, je pense que les autres arrêteront de faire les cons, tout simplement. Donc je pense qu'on a un vrai sujet sur l'application de la loi en France. Je comprends beaucoup de choses, mais en tout cas, je pense que les gens doivent prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls sur la route. Vous voyez, faut faire attention. Je crois que quand on va rentrer dans la période de fête, je pense qu'il y a quelque chose à dire aux gens qui vont se réunir. Faites attention aux autres quand vous allez festoyer.
À l'alcool.
À l'alcool notamment. Prenez conscience que, évidemment, vos réflexes ne seront pas les mêmes si vous avez bu. Vos réflexes ne seront pas les mêmes. Et donc, faites gaffe, parce qu'encore une fois, on l'a vu encore hier, ce gamin sur cette trottinette, l'alcool vous empêche de réfléchir. Donc, faites gaffe à tout ce qui se passe dans votre environnement.
Vous préparez une communication avec d'autres grands chefs à ce sujet, Yannick Alénaud, dans les prochains jours ?
Écoutez, ce qui est prévu dans notre communication, on a fait un gros programme cette année sur la prévention. On a... l'intention de faire un spectacle avec des rappeurs qui s'appelleraient Des Rapas avant l'été. Et je pense que les jeunes, il faut leur parler différemment. Il faut leur dire des mots qu'ils comprennent avec une prévention actuelle. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à regarder un spectacle que nous avons monté qui s'appelle Fragile avec un S, que vous pouvez voir sur YouTube. Ces messages... On l'a fait pour les jeunes, et quand les jeunes sont sortis de ce spectacle, on dit « Ah ouais, on n'avait pas vu les choses comme ça ». On a un homme qui est venu parler devant la caméra qu'il avait, lui, tué quelqu'un en voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça choque, et ça pose des questions. Je pense que la prévention doit changer de forme. La prévention doit être une actualisation pour les jeunes conducteurs qui vont prendre la route, ou qui la prennent déjà et qui vont la prendre demain.
Merci Yannick Alénaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si tout ce que vous venez d'entendre vous parle, l'association Antoine Alénaud est là et vous pouvez la solliciter. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. 13h46 sur Inter. On va rester sur la route, ça va vous intéresser, Yannick Alénaud. Notre feuilleton cette semaine est consacré à ceux qui sont les anges gardiens des conducteurs, des conductrices sur les autoroutes, les patrouilleurs. Nous sommes dans le Gard avec Alain Munda. Alain a 53 ans, père de 2 enfants, il travaille pour le réseau Vinci Autoroute. Il est patrouilleur depuis 10 ans. Il parcourt chaque jour 300 km entre le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône pour aider les automobilistes en détresse et écarter les dangers. Nous montons à bord.
Ouais, c'est pour te dire que je m'arrête sur la 54 en sens 1, au PK4, et je vais ramasser une sangle de PL qui est sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc en fait, le PC, lui, va le saisir. Du coup, mon intervention en cours va être affichée sur les panneaux à message variable pour indiquer au client qui arrive sur la zone que je suis en intervention et qu'il soit vigilant.
Je suis Alain Munda, donc je suis patrouilleur district du Languedoc.
Un crochet que ça peut provoquer une crevaison s'il y a un véhicule qui roule dessus. Quand je ramasse l'obstacle, je marche en marche arrière. Et j'ai les yeux rivés sur la circulation. Quand j'effectue ma patrouille, donc je reste sur la voie de droite et je roule à 90 km/h. Ça va nous permettre de nous arrêter assez rapidement sur la bande d'arrêt d'urgence s'il y a un événement. C'est pour ça qu'on fait un métier où il faut avoir une bonne vue, il faut être en bonne condition physique. Je fais en moyenne 1 heure à 2 heures de sport par jour. Là, ce matin, je suis allé faire mon petit footing de 10 km pour être en forme pour cet après-midi. Bonjour. C'est vous en panne ?
Problème. Получается, что регенерация, то есть,
ну... Là, je vais sur l'application Google Traduction et russe. Donc ça va nous faciliter la communication. Donc bonjour, vous voulez que j'appelle un dépanneur pour votre problème au moteur ? Ouais, salut, c'est le patrouilleur. C'est pour le dépannage d'un poids lourd en entrée au niveau du péage de Garon.
Ok, merci. Спасибо. Thank you very much.
C'est passionnant comme métier, c'est un métier qui change tout le temps, c'est-à-dire que là, c'est assez calme, puis d'un coup, ça va monter crescendo, il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner. Alors moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études, j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai commencé à travailler à 18 ans, donc j'ai travaillé pendant 5 à 7 ans dans des boîtes d'intérim, où j'ai touché un peu à tous les boulots. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de rentrer aux autoroutes. Et du coup, quand je suis rentré dedans, j'ai découvert de suite le métier de patrouilleur. C'est un métier qui m'a plu de suite. Bon, après, c'est sûr que quand je rencontre des gens que je connais pas, des futurs amis, tout ça, que je dis mon métier, faut pas se leurrer. Ils ont tous la même réaction. Hein. Mais tu fais un métier dangereux, mais tu n'as pas envie de changer. Et je leur explique que non, que je m'éclate et que... Et que j'ai pas envie de changer. Par moments, on se considère comme un super-héros. J'ai pas de pouvoir, mais je sauve des vies tous les jours.
Patrouilleur d'autoroute, feuilleton signé Luc Chemla, réalisation Vincent Godard.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi 13h50, Cécilia Arbonnat nous parle d'un lieu, d'une personnalité qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Cécilia, nous poussons la porte d'un cinéma de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire.
2913 entrées en 5 jours au Capitole. Le nouveau complexe a ouvert mercredi dernier. En tête d'affiche, on trouve le film d'animation Zootopie 2 qui a attiré 1711 spectateurs dans un lieu aux influences art déco, emballé d'une jolie coque dorée et blanche, digne d'un réveillon, et à l'intérieur une ambiance rétro et cosy, sofa moelleux, petite lampe sur pied comme dans les salons anglais, et dans les 4 salles de 62 à 232 places, et bien des équipements haut de gamme. Images 4K, son Dolby Atmos, fauteuil confortable et inclinable.
Quel est l'homme qui est à la tête de ce projet ?
C'est un peu le monsieur cinéma de Saône-et-Loire. Régis Faure, 48 ans, originaire de Chauffailles, a d'abord été caissier bénévole dans l'association Ciné Action Palace, puis il a géré une compagnie de spectacles vivants, obtenu un CAP d'opérateur projectionniste. Et pendant des années, c'est grâce à lui et à toute son équipe de 10 passionnés que des bobines de pellicules ont voyagé dans les campagnes de Digoin à Guignon. 2 cinémas de proximité ont été fondés dans ces communes, le Majestic et le Danton. J'ai proposé des bistrots ciné en milieu rural, raconte Régis Faure, des blockbusters américains, des films d'auteur, des projections débat aussi, et je fais
fait partie du réseau national Art et Essai. C'est une fierté d'obtenir ce label sur le territoire. Et vous savez, on vit dans un ancien bassin minier qu'il faut redynamiser. Effectivement, l'extraction du dernier puits d'Arcy s'est arrêté en 1992. 200 ans d'histoire économique ont pris fin dans la plus jeune ville du département. Fondée en 1856, Monceau-les-Mines, 16 000 habitants, a poussé sur les gisements de charbon au bord du canal du Centre. Et c'est justement sur une rive de cette voie d'eau qu'a été érigé le Capitole.
Et un autre cinéma va bientôt ouvrir dans la région.
Le 4 février prochain, Régis Fort va inaugurer le Magic et ses 5 salles, on sera au Creusot, à 20 km. En fait, les deux municipalités ont travaillé ensemble pour offrir à leurs habitants des cinémas de quartier 5 étoiles, d'autant que de nombreux jeunes des environs espèrent intégrer la filière cinéma et audiovisuel du lycée Henri Paria de Monceau. Laetitia Frenich, qui est professeure de lettres et la référente de la spécialité, ces cinémas en cœur de ville, dit-elle, sont une chance pour nos élèves. Et puis, dans le cadre du Festival Cinémine, les courts-métrages en compétition de tous ces élèves de terminale seront projetés au Capitole en fin d'année scolaire. Mmh. Alors, 6 mois après Nick le renard et Judy la lapine, les rois de l'hiver du monde de Disney, qui seront les lauréats des studios Paria ? Réponse le 19 juin.
Merci Cécilia Arbona. De C'est la France à C'est une chanson, c'est le réalisateur et romancier Gilles Le Gardinier que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Gilles Le Gardinier, auteur de nombreux best-sellers, qui vient de publier chez Flammarion son 22e roman, La Compagnie des Heureux Hasards. Et avec lui, nous avons parlé de la chanson « Les matins d'hiver » de Gérard Lenormand.
On sent l'émotion chez lui. C'est quelqu'un qui chante ce qu'il ressent et avec des émotions, même parfois naïves quand on les remet dans le contexte de l'époque. Mais sa sincérité me touche. Il a quelque chose d'extrêmement humain. Je crois assez à la tête des gens et il a un truc d'immédiatement sympathique. J'ai 60 ans. Je suis un enfant de la radio, ma mère allumait la radio le matin, elle l'éteignait le soir. Donc j'ai été nourri de plein de choses malgré moi. Et il faisait partie des gens qu'on passait énormément quand moi j'étais gamin. Et cette chanson-là m'a fusillé, vraiment, elle m'a touché. Je me souviens très très bien de la première fois où je l'ai entendue, parce que pour moi c'était un sentiment que j'ai connu. C'est-à-dire le fait d'être dans le cocon protecteur de l'école et n'avoir qu'une envie, c'est d'en sortir pour vivre.
Au moment où vous découvrez cette chanson-là, vous êtes à quel endroit ?
Je suis dans ma chambre, je devrais travailler, et devinez quoi, je ne le fais pas. On avait un chien et j'étais face à une fenêtre qui donnait sur un grand jardin, et c'était beaucoup plus intéressant que la grammaire ou les maths.
Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère, sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil, grelottaient sous les assauts du vent. Nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant.
C'est en 1972 qu'est sortie cette chanson de Gérard Lenormand, Frédéric.
Une chanson qui continue de bouleverser Gilles Le Gardinier dès qu'il l'entend.
Je pense que toutes les œuvres qui vous touchent vraiment arrivent à faire vibrer quelque chose en vous que vous ignorez même parfois de vous-même. Et d'un seul coup, ça rentre en résonance. Et là, en l'occurrence, ce côté chaleur, enfermé, froid dehors et ensemble dedans, m'a immédiatement touché parce qu'il y avait une analogie avec ce que j'avais souvent ressenti et ce que je ressentais.
Vous savez quel endroit du corps ça a touché ?
Chez moi, c'est assez rapide. Hein. J'ai l'impression que le cerveau s'illumine de l'intérieur et souvent les yeux prennent le relais.
Dans cette chanson, il parle de son frère et il parle de leurs envies de rêve.
Oui, tout à fait.
Et vous, vous rêviez beaucoup ?
Ah ben forcément. On vous élève en vous promettant de la grandeur, de l'aventure, plein de choses exaltantes. Vous êtes nourri de récits par tous les moyens, que ce soit le cinéma, la littérature, y compris les chansons, de noblesse, de grands buts, de territoires infinis. Et puis ben, chaque jour, et dès que vous êtes jeune et que vous avez un cerveau, vous vous rendez compte que l'univers est un peu plus réduit que ça et qu'en fait, le meilleur que vous pouvez espérer, c'est ne pas payer trop d'impôts et ne pas crever d'une maladie prématurée. Donc l'appel de l'aventure et l'envie de ressentir, parce que je pense que c'est ça là-bas, c'est l'envie de ressentir, elle est obsessionnelle.
Puis bercé par les vagues d'une douce chaleur que nous prodiguait le vieux poêle, nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs vers des plages où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer.
La chanson s'appelle Les matins d'hiver.
Oui.
Il ressemble à quoi, vos matins d'hiver ?
Blanc, froid, avec de la buée sur les carreaux, et un terrain de jeu fabuleux et un terrain complètement redessiné par la blancheur que les flocons posent sur tout.
C'est un décor qui vous plaît ?
Ah bah j'adore. Parce que c'est un décor qui rend tout non seulement nouveau, mais inédit. Enfin, vous pouvez connaître un paysage par cœur quand vous le voyez sous une couche de neige. Vous ne savez plus où vous mettez les pieds, vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, est-ce que c'est solide, est-ce que ça l'est pas. C'est une redécouverte de quelque chose que vous connaissez.
Vous préférez les matins d'hiver aux matins d'été ?
Ah, clairement. J'aime pas l'été. C'est la saison de toutes les conneries, c'est là où les gens trompent leurs conjoints, c'est là où ils travaillent pas. Je suis pas fan de l'été. En général, je le passe en Écosse, hein, clairement. Là, je commence à revivre en automne. C'est la saison où les gens se rapprochent pour affronter l'hiver. On mange mieux, les maisons sont plus chaleureuses. Quand vous rentrez chez vous le soir et qu'il y a la lumière, il y a un truc. Mais la chanson de Le Normand parle ça aussi. Hein.
Vous avez l'impression qu'elle a imprimé quelque chose en vous ?
Elle a posé des mots sur un sentiment que je n'analysais pas. Et je pense que par là même, il fait partie des gens qui m'ont appris que même ce qui ne se disait pas pouvait s'écrire.
C'est une leçon incroyable.
Ah ben c'est un cadeau.
Et s'il avait écrit Les Matins d'été, ça n'aurait pas fonctionné pour vous ?
Je l'aurais pas écouté.
Les matins d'hiver, donc, Gérard Lenormand, c'était Frédéric, le choix de Gilles Le Gardinier.
Gilles Le Gardinier, dont le nouveau roman La Compagnie des Heureux Hasards vient de paraître chez Flammarion.
Merci Frédéric et à demain. Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire à suivre.